Tout de suite, c'est le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Paul Inglaise.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous et bienvenue. À la une de cette édition, l'ouragan Michael qui a frappé le nord-ouest de la Floride de ses vents violents. Vous entendrez le témoignage d'une habitante de l'une des localités les plus affectées. Au Pérou, la chef de file de l'opposition, Keiko Fujimori, a été arrêtée et placée en détention provisoire. Les détails dans la revue de presse de Marie Normand. Et puis nos deux rendez-vous hebdomadaires du jeudi, notre série sur les élections de mi-mandat aux États-Unis, à moins d'un mois de l'échéance, focus aujourd'hui sur les inscriptions sur les listes électorales. Et puis l'actualité haïtienne avec Franz Duval du Nouvel East. L'exécutif revient sur la dédollarisation. Les explications dans quelques minutes. Michael perd de sa puissance, il a été rétrogradé en tempête tropicale alors qu'il poursuit sa course en Géorgie. Mais hier, l'ouragan a frappé la Floride de plein fouet quand il était classé en catégorie 4. Des rafales de vent allant jusqu'à 250 km/h ont déferlé sur l'état du sud des États-Unis. Bilan, au moins 2 morts et des dégâts matériels, comme en témoigne Lorraine Beltrán, une habitante de Mexico Beach, l'une des localités les plus touchées.
My home is Mexico Beach, Florida, or was. It is no longer there.
Ma maison se trouve à Mexico Beach en Floride, ou plutôt elle se trouvait à Mexico Beach, elle n'existe plus. La petite ville qui s'étend sur quelques kilomètres le long de la côte est dévastée, sous les eaux, il n'y a plus rien. Je n'ai plus de maison, mais heureusement la police locale avait lancé l'ordre d'évacuation dès lundi, donc nous avons été prévenus suffisamment tôt, résidents comme vacanciers, qu'il fallait partir. Je suis moi-même partie dès lundi soir, j'ai même pu vider une bonne partie de mes affaires, donc tout ce que j'ai perdu sur place, ce sont des choses remplaçables. Et j'ai trouvé refuge à une cinquantaine de kilomètres plus à l'ouest, dans la maison de mon compagnon, qui est conçu pour résister à des vents supérieurs à 300 km/h. Je viens de la côte ouest, donc j'ai déjà vécu des tremblements de terre, mais c'est la première fois que je me retrouve dans un ouragan. Et je n'avais jamais vu de ma vie des dégâts d'une telle ampleur. Ce sont des scènes que des photos seules ne permettent pas d'illustrer.
Videos and pictures can't capture the devastation.
Lorraine Beltrán répondait à Angélica Pérez. L'ouragan Michael occupe la une des journaux aux États-Unis. Marie Normand, bonjour.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Les dégâts, Marie, sont encore durs à évaluer.
Oui, le Tampa Bay Times parle d'une fureur historique. Le journal de Floride raconte il y a d'abord eu les vents hurlants à des vitesses maximales de 250 km/h qui ont arraché les toits, abattu des palmiers. Puis la pluie horizontale avec la force d'un million de petits poignards. Enfin, l'onde de tempête engloutissant les maisons, les commerces en bord de mer et laissant derrière elle parfois 3 mètres d'eau. Je vous recommande l'impressionnant webdoc publié en une du Washington Post. Maintenant, écrit USA Today, le corps des ingénieurs de l'armée américaine se prépare à couvrir en urgence des milliers de toits endommagés. 2000 hommes de la garde nationale ont aussi été mobilisés pour dégager les routes.
La presse américaine poursuit par ailleurs son enquête sur la disparition de Jamal Khashoggi.
Et si l'on en croit le New York Times, cette affaire est moins ennuyeuse pour Donald Trump que pour son gendre, Jared Kushner, qui a, si l'on en croit le journal, toujours cultivé plus que quiconque au sein de l'administration ses liens avec le prince héritier saoudien. Selon le Washington Post, c'est précisément ce dernier qui a donné l'ordre d'une opération visant à attirer le journaliste en Arabie Saoudite. Information que le journal dit tenir des services de renseignement américains qui ont intercepté des discussions de responsables saoudiens.
On part maintenant au Pérou. La chef de file de l'opposition, Keiko Fujimori, a été arrêtée et incarcérée hier.
Et elle apparaît à la une de Coréo, entourée de policiers et les mains probablement menottées, cachée sous un manteau. La fille de l'ancien président péruvien est poursuivie dans le scandale de corruption Odebrecht. Elle a donc passé la nuit à la préfecture de Lima, où l'attendait hier soir, on l'entend, des petits groupes de sympathisants et d'opposants. Ces derniers d'ailleurs se sont affrontés devant le bâtiment, on peut le voir dans cette vidéo diffusée par Coréo. Et Keiko Fujimori restera 10 jours en détention préventive, une mesure arbitraire pour son avocate Julia Losa. Elle rappelle que sa cliente a pourtant toujours coopéré avec la justice péruvienne.
Une détention préliminaire.
Pour une détention provisoire comme celle-ci, quelles que soient les circonstances, il faut que la personne refuse de faire l'objet d'une enquête ou qu'elle présente un risque de fuite. Regardez à quel point c'est contradictoire. Vous répondez comme prévu à une convocation du juge à 10 heures du matin, vous arrivez un quart d'heure en avance et on vous arrête. On nous notifie la détention provisoire pour une durée de 10 jours. Et bien sûr, nous la contestons. Nous attendons des autorités qu'elles annulent cette décision arbitraire.
Julia Lossa, l'avocate de Keiko Fujimori.
Et en Argentine, c'est l'ancien ministre des Transports qui est à la case prison. Il a été condamné à 5 ans et 8 mois de réclusion en cause d'un accident de train de voyageurs il y a près de 7 ans dans le centre de Buenos Aires. Il avait fait 51 morts et plus de 700 blessés.
Et Julio De Video n'est pas condamné pour avoir directement provoqué l'accident, mais pour fraude contre l'administration, explique Clarine. L'accident avait mis en lumière en fait le mauvais état des chemins de fer dans le pays et la justice estime qu'il n'a pas mis en œuvre les investissements nécessaires lorsqu'il était ministre. Et l'Argentine est un pays meilleur après cette condamnation, estiment les familles des victimes. En détention provisoire pour détournement de fonds dans une autre affaire, l'ancien ministre s'est lui dit victime de persécution politique.
Un retour aux États-Unis, Marie, avec l'histoire du jour qui se passe en Géorgie.
Oui, c'est celle d'un jeune homme noir babysitter de deux enfants blancs à Marietta, en Géorgie. Alors qu'il sort d'un fast-food avec ses enfants, il est accosté par une femme qui souhaite s'assurer que ces derniers vont bien. Le babysitter s'étonne de sa remarque et il note ensuite que cette femme les suit en voiture. Et c'est là, explique le New York Times, qu'il commence à filmer la scène, la diffuser aussi en direct sur Facebook, vidéo qui a depuis fait beaucoup de bruit, car s'ensuit un interrogatoire de police. La femme a en effet prévenu la police. La mère des enfants doit confirmer qu'elle a bien autorisé cet homme noir à garder ses enfants, le tout pendant que ses enfants attendent terrorisés dans la voiture de police. Et l'histoire a pris une envergure nationale, explique Vox, car c'est un nouvel exemple de « voilà ce qu'on vit quand on est noir ». Le média américain rappelle une série d'autres affaires où des blancs ont appelé la police pour dénoncer des noirs sans autre raison apparente qu'une suspicion liée à la couleur de leur peau.
Marie, la presse américaine relève également que même si Brett Kavanaugh a été nommé à la Cour suprême, la polémique n'est pas terminée.
Oui, on va parler surtout du site brettkavanaugh.com. Vous ne trouverez pas sur ce site de renseignements biographiques flatteurs sur le nouveau juge à la Cour suprême, raconte The Huffington Post. Les visiteurs sont plutôt invités à cliquer sur des liens qui mènent à des sites s'adressant aux victimes d'agressions sexuelles. Le nom de domaine a en effet été acheté par Fix the Court, une organisation qui entend réformer la plus haute juridiction du pays.
Et pour finir, un mot de la course pour les élections de mi-mandat.
Oui, avec plusieurs articles repérés dans la presse américaine. D'abord, le Washington Post remarque que les deux camps alimentent en ce moment de manière agressive les craintes au sujet du parti adverse. Les démocrates présentent les républicains comme une menace à l'Obamacare. Les républicains, eux, présentent les démocrates comme des extrémistes. Et puis, à quelques jours du scrutin, note Politico, Donald Trump a perdu sa place en prime time sur Fox News. La grande chaîne américaine avait l'habitude de retransmettre en direct ses meetings, mais paraît-il, les audiences ne sont plus aussi bonnes qu'avant. Alors Fox News ne diffuse plus que des extraits et certains à la Maison-Blanche, croient savoir le journal, craignent que le président américain ne perde en conséquence le mégaphone qui le relie à sa base.
Voilà, radicalisation des discours à l'approche des midterms qui se dérouleront donc dans moins d'un mois. Et comme tous les jeudis, on continue de vous expliquer les enjeux et le fonctionnement de ces élections. Aujourd'hui, Romain Lemaresquier revient sur les inscriptions sur les listes électorales et ce n'est pas si simple.
USA 2018, élection de mi-mandat.
Pour inciter les gens à voter, ces derniers mois, les campagnes pour s'inscrire sur les listes électorales se sont multipliées aux États-Unis. Des initiatives lancées par des associations, mais pas seulement, puisque les autorités fédérales n'hésitent pas non plus à communiquer.
Êtes-vous prêt à voter pour la première fois? Si vous êtes un citoyen américain, que vous remplissez les exigences de votre État et que vous aurez 18 ans le jour du vote, vous pouvez voter. Mais vous devez d'abord vous enregistrer avant la date butoir de votre État.
Remplir les exigences de votre État, précise cette annonce. En effet, comme les États-Unis sont une fédération d'États souverains, les conditions d'inscription sur les listes électorales varient d'un État à l'autre, comme nous l'explique notre correspondante à Washington, Anne Corpet.
Midterms, mode d'emploi.
Chaque État fixe les règles qui permettent de s'inscrire sur les listes électorales, ce qui entraîne de fortes disparités au niveau national et de nombreux contentieux. Au Texas, par exemple, le permis de port d'armes est accepté, mais pas la carte d'étudiant des universités d'État. De son côté, la Floride interdit le vote à toute personne ayant été condamnée à de la prison, même si elle a purgé sa peine. Pour faciliter les procédures, dans une quinzaine d'États, l'obtention du permis de conduire entraîne automatiquement l'inscription sur les listes électorales. Autre avancée, 37 États autorisent désormais l'enregistrement en ligne. Mais il y a aussi des régressions. En juin dernier, la Cour suprême a autorisé les États à rayer de leur liste les personnes qui ne votent pas régulièrement. Des centaines de milliers de citoyens ont ainsi été écartés des urnes.
Les citoyens américains doivent donc être très attentifs aux règles de l'État dans lequel ils résident. Prenons l'exemple de l'État du Maine, avec là aussi une annonce produite par les autorités locales.
Pour devenir un électeur du Maine, vous devez avoir au minimum 17 ans, être un citoyen américain et avoir établi votre résidence principale dans le Maine. Vous pouvez vous inscrire à la mairie où on vous remettra une carte d'électeur. Vous pouvez également vous enregistrer au bureau des immatriculations de voitures, dans votre centre d'aide sociale ou dans un centre d'inscription électorale.
Voilà pour ce qui est des prérequis réclamés par une grande majorité d'États. La suite de cette annonce détaille d'autres informations que vous devez fournir et c'est parfois surprenant pour un non-américain. Écoutez ce qu'il faut spécifier après avoir donné son nom, son adresse postale et une adresse mail.
Ensuite, vous pouvez choisir un parti politique. Vous pouvez rejoindre le Parti démocrate, le Parti indépendant vers le Parti libertarien ou le Parti républicain. Si vous ne souhaitez pas rejoindre l'un de ces quatre partis, cochez « non affilié ».
Voilà certainement l'aspect le plus surprenant lorsque l'on s'enregistre sur les listes électorales aux États-Unis, un cas peut-être même unique pour une démocratie. Voter est un droit, un devoir, mais finalement, sur un potentiel de plus de 250 millions d'électeurs, ils ne sont en règle générale qu'un peu plus de la moitié à voter. D'où la multiplication des campagnes pour tenter de convaincre les gens de s'inscrire et de voter, à l'image de celle menée par l'organisation « When We All Vote », lorsque nous votons tous, campagne à laquelle participe l'ancienne première dame Michelle Obama.
Je ne suis pas ici pour soutenir un candidat. Je ne suis pas ici pour vous dire pour qui voter. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire qu'il est important de voter et pourquoi nous devons tous nous inscrire et être prêts à voter en novembre.
Et preuve que ce type de campagne fonctionne, le 25 septembre, lors de la journée nationale pour s'enregistrer sur les listes électorales, 800 000 personnes se sont inscrites, ce qui représente un nouveau record en la matière.
La semaine prochaine, dans notre série USA 2018 et les élections demi-mandat, Stéphanie Schuller nous expliquera les enjeux des élections anticipées, le vote principal étant prévu le 6 novembre.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti, où nous retrouvons Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour.
Bonjour.
À la une, Franz, la fin de la dédollarisation en Haïti.
7 mois après avoir pris un arrêté présidentiel pour consacrer la gourde comme la seule et unique monnaie de transaction commerciale sur tout le territoire haïtien, le gouvernement la remplace par un nouveau texte moins contraignant. S'il est toujours dit qu'il faut libeller et afficher les prix des biens et services sur le territoire de la monnaie nationale, la gourde, on laisse en paix le dollar qui a cours légal dans le pays depuis 1919. La mesure initiale, prise le 28 février 2018 avec mise en application immédiate le 1er mars, avait suscité la grogne de tous les acteurs économiques et provoqué, avec d'autres conditions, le doublement du rythme annuel de dépréciation de la gourde haïtienne vis-à-vis du dollar américain ces derniers mois.
Alors avec cet assouplissement de la mesure, est-ce que la monnaie haïtienne, la gourde, s'est renforcée, Franz?
Pour le moment, on ne s'attend pas à un miracle. La décision est tardive. L'État haïtien l'a adoptée sous pression et tous les autres indicateurs, comme le taux d'inflation, le déficit budgétaire, le déficit commercial, sont au rouge. Pour ne rien arranger, la population perd confiance dans les capacités du gouvernement à juguler la crise des émeutes de juillet dernier. Pour ne rien arranger, la communauté internationale laisse le président Jovenel Moïse cuire dans son jus. Il n'y a pas d'annonce d'aide. Lundi, 1 dollar valait 72 gourdes. Mercredi après-midi, après la publication de l'arrêté, il fallait 72,50 pour 1 dollar. Et encore plus si la somme est importante.
Et France, il y a d'autres raisons qui provoquent la chute de la gourde.
Le principal handicap de l'administration Moïse, d'un premier ministre à l'autre, est le déficit chronique. Les dépenses augmentent et les recettes diminuent. si l'État haïtien a été incapable d'augmenter les prix du pétrole en juillet, si depuis il subventionne toute la consommation nationale de carburant, lundi, avec l'ajustement à la hausse du salaire minimum, c'est une augmentation du déficit du premier employeur du pays que les économistes et spéculateurs du change ont ajouté à la liste des charges qui pèsent sur la valeur de la gourde. Il n'y a pas de miracle en vue et personne ne veut consentir de sacrifice.
Enfin, il y a aussi le cas de ce que l'on appelle les zombies dans l'administration publique haïtienne.
Autre décision que les économistes examinent, le rétablissement du versement des salaires dans l'administration publique par virement bancaire ce mercredi. La décision est intervenue après la découverte il y a quelques mois d'un nombre important de zombies, ces fonctionnaires qui reçoivent leur salaire sans jamais se présenter au travail. Après des mois d'enquête, les trois ministères qui avaient débusqué les sinécuristes sont toujours sous observation, mais les autres, qui n'avaient pas chassé leurs zombies, renouent avec le virement automatique. Pas un procès n'a été engagé contre un zombie. Pour les économistes, l'État haïtien a renoncé à mettre de l'ordre dans les rangs de ses 91 000 fonctionnaires.
Merci Franz Duval, on vous retrouve la semaine prochaine. Puis si vous êtes en Haïti, sachez que des pluies intenses sont encore prévues aujourd'hui et demain par l'unité hydrométéorologique. L'UHM appelle les populations qui vivent dans des zones présentant des risques de glissement de terrain, d'éboulement et d'inondation à rester très vigilants.
Le journal de l'Outre-mer.
Il est présenté par Benoît Ferrand de La Première Caraïbe. Bonjour Benoît.
Bonjour Pauline.
En Guadeloupe, les commerçants de Pointe-à-Pitre sont en colère.
Oui, et non seulement ils sont en colère, mais ils le font savoir. Ils ont lancé une pétition qui aurait déjà recueilli 700 signatures, moitié à peu près sur Internet, moitié avec un stylo. Pétition à l'initiative de l'Union des services et commerces pointois. Pétition qui dénonce ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion des affaires de la sous-préfecture, sans parler d'une communication aux allures, paraît-il, de dialogue de sourds avec la municipalité. François Pellicué et président de l'USCP, il est au micro de Franck Aristide.
Une ville doit se manager comme un centre commercial. Qu'est-ce qui crée de la valeur ajoutée? C'est l'entreprise. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin d'un terreau correct, propre, sécurisé, avec des parkings et avec une équipe municipale qui comprenne que ce qui est bon pour l'économie est forcément bon pour une municipalité. Ça a l'air d'être tout basique de répéter ça comme ça. C'est la problématique qu'on a aujourd'hui. On a l'impression que ou ils sont aveugles, ou ils sont sourds, ou ils sont muets. Enfin, on ne sait pas trop. Et là, on n'a pas autre alternative que se faire entendre.
Vous avez l'occasion de les rencontrer pour leur expliquer.
C'est vrai que ces rencontres sont assez problématiques parce que il semblerait que tout aille bien et que c'est nous qui allons mal. Donc voilà, dans un tel contexte, c'est difficile de s'expliquer, c'est difficile d'amener des solutions, d'amener des propositions. Et il y en a pourtant, il y en a. Nous en avons fait en 2017, nous avons refait en 2018. Ça reste un statu quo malheureusement pour nous.
Pas de réaction pour l'instant du côté de la municipalité de Pointe-à-Pitre. La Martinique maintenant, une cité du Rhum en Martinique. Et pourquoi pas? C'est l'idée lancée par l'association Contact Entreprises. Une telle cité ferait, si l'on peut dire, coup double en magnifiant d'une part un produit d'excellence caractéristique de la Martinique et d'autre part en attirant l'intérêt du touriste de passage. Lucie Manuel est la présidente de Contact Entreprises. Elle est au micro de Guy Etienne.
Nous l'imaginons sur un point central de la Martinique, pourquoi pas à Fort-de-France, dans un lieu à créer ou dans un lieu à rénover. On pourrait effectivement trouver des boutiques, des spectacles, des ateliers, mais aussi des restaurants qui utilisent le rhum. Si on prend l'exemple de la Cité du Vin, il y a des expositions, il y a des événements, il y a des spectacles sur 3000 mètres carrés. C'est vraiment un voyage sensoriel dans le temps et à travers le monde à la découverte des cultures et des civilisations du vin. Donc on pourrait imaginer que dans cette cité du Rhum, on pourrait décliner à l'envi tout un voyage autour de l'histoire et de l'actualité du Rhum aujourd'hui en Martinique et ailleurs.
Affaire à suivre et à consommer, bien entendu, avec une grande modération. Bon après-midi, Pauline. À demain.
Merci, à demain, Benoît Ferrand. Pour finir, la frayeur pour un astronaute américain et son compagnon de voyage russe, Nick Haig et Alexei Ovitchinin, ont dû atterrir en urgence. La fusée Soyouz qui devait les amener sur la Station Spatiale Internationale a connu une défaillance moteur. Les deux hommes sont sains et saufs. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci de l'avoir suivi. Merci à Luna Timbal de l'avoir réalisé. Nouveau.